Bon, pas obligé, là, sentez-vous bien à l'aise. C'est pas gênant si personne ne lève la main. Ça va le faire. Seigneur, on veut te remercier pour cet avant-midi encore. Merci pour cette salle que nous avons. Merci pour l'équipement, pour tout ce qu'on peut avoir ici, Seigneur. Et te remercie particulièrement pour ta parole à laquelle on a accès facilement. Merci parce que tu as choisi de te révéler à nous, Seigneur, sur qui tu es, sur ton amour pour nous. Merci parce que tu nous as révélé Jésus à chacun de nous ici qui t'avons connu. Seigneur, merci parce que tu nous révèles aussi comment tu as créé toutes choses et comment en créant toutes choses, Seigneur, tu te révèles de ta personne, comment tu es un Dieu tout-puissant. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu qui aime sa créature, Seigneur, et on va voir à mesure qu'on regarde le texte comment tu nous as créés pour profiter d'une relation avec toi puis de profiter de toute la création que tu as mis à notre disposition, Seigneur. Merci. Et je te prie de venir édifier nos cœurs, de venir nous donner une foi grandissante dans ta parole avec ce temps ce matin. Amen. Comme d'habitude, vous m'interrompez si vous avez des questions et je dois les répéter. C'est que rappelez-moi de les répéter. C'est encore le cas. Donc, on est rendu ici dans le développement de la création. On est rendu au verset 3. Dieu a créé l'univers, espace-temps. Dieu a parti le temps, a créé l'espace dans lequel on vit. On sait que l'espace, l'univers est limité. C'est pas Dieu. Dieu est éternel, est infini, mais non pas l'espace. C'est qu'il y a une limite à quelque part, même si on ne comprend pas ça veut dire quoi, il y a une limite. Autre chose qu'on a vu, ça c'est ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, vous avez manqué tout ce bout-là. Là. Vous lirez mes notes, s'il y a quoi qui n'est pas clair dans mes notes, parce que là c'est sûr que je n'irai pas en détail. Vous viendrez me voir après, parce que c'est peut-être en lisant les notes, des fois ça peut être pas très clair. Une chose que le verset 2 nous dit, après que Dieu ait créé tout ça, Dieu crée l'univers, donc l'espace, puis Dieu crée aussi la matière au verset 1. Dans notre traduction, il dit qu'il a créé la terre. On conclut en lisant le verset 2, qu'étant donné que la terre n'est pas encore formée, puis elle est encore vide, puis ça dit qu'elle était informe et vide, puis on a vu les mots utilisés, qu'au verset 1, il y avait quoi qui n'était pas formé dans la terre qu'il a créée. C'est que je suggérais l'idée que Dieu avait simplement créé la poussière de la matière, les éléments pour former la matière, mais Dieu avait encore rien, il n'avait appliqué aucune force, aucune forme à ça. C'est pour ça que j'avais dessiné un genre de blob, un genre de tache. Dans le verset 2, on a vu ensemble comment est-ce que Dieu il spécifie au début que la terre était informe et vide. Voilà un fait. On a vu que c'était une situation, elle n'était pas complète. Dans l'idée d'informe dans l'hébreu, c'est par l'idée, pas nécessairement négatif, mais ça peut être juste incompleteness, c'est incomplet. Dieu avait à compléter, à former qu'est-ce qui n'était pas encore formé entièrement. C'était créé sans être formé. Puis aussi le fait qu'elle était vide, là, ça on va voir ça dans les prochains jours, Dieu va remplir la terre, parce qu'évidemment au début elle est vide. C'est ça l'idée, c'est qu'il n'y a rien. C'est, encore là, c'est pas nécessairement négatif, ça peut juste vouloir dire inhabité. Puis Dieu va lui donner des habitants. Donc, là, on se demandait, parce que lorsqu'on va continuer dans le reste du texte, ça ne nous dit jamais où est-ce que la terre finalement a été formée. Parce qu'elle nous dit qu'elle était informe, mais quand est-ce qu'elle est devenue formée? Puis on est allé voir des textes parallèles que je ne retournerai pas ce matin, mais il y a des beaux textes dans Proverbe 8, dans Ésaïe 45, je crois, vous irez voir vos notes, où il y a comme un beau parallèle où l'auteur revient au moment de la création puis réexplique un peu ce que Dieu a fait d'une façon un peu plus poétique. On va parler d'un compas, puis qu'il a tracé, puis qu'il a formé les choses. Moi, je crois que c'est dans le verset 2 qui nous a donné l'information pour nous dire quand est-ce que les choses ont été formées. Dans le verset 2, ça nous informe aussi, on a une autre donnée, comme quoi que la matière première était sous forme aqueuse, ou en tout cas, c'était, peu importe comment c'était, on ne sait pas, il y avait de l'eau. Okay? On le voit dans le verset 2, l'abîme, l'Esprit de Dieu à la surface des eaux, en présence des eaux, il y avait de l'eau. Okay? Ça semble être la matière première que Dieu a utilisée. Ça, c'est clair dans le verset 2. Puis on a terminé la semaine dernière, avant de parler de la lumière, on a parlé de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est un verset un petit peu étrange qui nous mentionne l'Esprit de Dieu dans le verset 2. Puis je vous ai suggéré, puis moi j'y crois parce que je pense que les mots utilisés font référence à ça. Je vous ai suggéré que c'est à ce moment-là que la terre est formée. C'est l'activité de l'Esprit de Dieu qui a donné énergie et force à cet univers-là pour faire en sorte que les choses se forment. Nous, on le sait aujourd'hui, on sait que Dieu soutient toute chose, on sait que c'est Dieu qui a mis en place les forces, puis l'énergie, puis les lois dans l'univers. On sait que c'est pas là par hasard. Fait qu'on le sait, entre autres, que si la Terre est sphérique puis que les choses ne tombent pas de la planète mais restent collées après, entre autres, c'est à cause de la gravité. Puis on sait que les forces de gravité, il y en a plusieurs en exercice dans l'univers. On a pu en voir entre les planètes aussi, il y a des forces de gravité. C'est que ça fait en sorte que les choses tournent puis sont à des certaines distances puis réagissent ensemble d'une façon coordonnée. La suggestion, c'est que l'Esprit de Dieu aurait été celui qui aurait amené ces forces-là dans l'univers, puis ces énergies-là, pour finalement qu'au lieu d'avoir un blob, on se ramasse avec quelque chose de sphérique, au verset 2, une terre formée. Puis on a vu dans Proverbe 8 qu'il parlait de cette idée-là de sphère, dans Proverbe 8. C'est une idée qui est déjà dans la Bible, la sphéricité de la terre. C'est que l'idée que la terre était plate et était maintenue par l'Église catholique pendant des siècles, c'était pas une idée qui était dans les Écritures. C'était plus une idée d'expérience humaine ou de d'autres textes. Fait que ça, on a vu ça. Puis aussi, moi, ce que je veux que vous rappeliez, c'est que le mot qui est utilisé, planète, planait ou se mouvait, dépendamment de vos traductions, dans le verset 2, bien, ce mot-là, dans l'hébreu, on le voit juste deux autres fois dans l'Ancien Testament, ce mot hébreu-là. L'autre fois, il est traduit par voltiger pour un oiseau, un aigle, je crois, au-dessus de son nid. Puis il y a vraiment une idée de mouvement, va-et-vient, mouvement sur place. Lorsqu'un oiseau voltige au-dessus de son nid pour qu'il reste en place, sur place, bien, il faut qu'il fasse du va-et-vient dans son mouvement d'aile, un peu comme un colibri là, des oiseaux-mouches. C'est que c'est vraiment ça, il y a une idée de mouvement de ce style-là dans le mot. Et la suggestion, c'est pas marqué dans le texte, mais la suggestion, c'est que ce mot-là a été choisi pas pour rien, parce qu'à quelque part, lorsqu'on constate dans l'univers, on voyait que les forces, les énergies se présentent en majorité sous forme d'ondes, puis les forces aussi, les forces ou les énergies se distribuent ou voyagent sous forme d'ondes aussi. C'est intéressant de voir que le verbe qui est affilié à l'esprit, c'est un verbe qui a cette suggestion-là dans l'original. Puis plus fort que ça, c'est se rappeler que le même mot, la version Septante, donc la version grecque de l'Ancien Testament, ce mot-là, ils l'ont traduit par le même mot grec qui est utilisé dans 2 Pierre 1. Rappelons, on est allé voir 2 Pierre 1, c'est par l'Esprit de Dieu que des hommes, c'est poussé par l'Esprit des dieux que des hommes et les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Le mot poussé dans 2 Pierre 1, c'est le mot qui est utilisé pour planer dans la version grecque de l'Ancien Testament. C'est intéressant de voir que l'Esprit de Dieu fait un travail dans l'inspiration des Écritures qui se ressemble au travail qui a opéré dans la création. Question d'apporter énergie, d'apporter mouvement, t'sais, d'apporter mouvement à l'Écriture de ceux qui écrivent de la part de Dieu, parce qu'ils ont, peu importe comment que ça s'est passé, l'inspiration des Écritures, ils ont écrit, puis chaque mot qu'ils écrivaient dans l'original venait de Dieu. Ça fait que ça, c'est intéressant. On était rendu là, mais on a parlé de la lumière aussi, parce que la première journée s'est terminée avec la création de la lumière, puis une couple de trucs que je trouvais important de mentionner, c'est que c'est à ce moment-là, la première fois que Dieu parle, c'est lorsqu'il crée la lumière. Et Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. Puis il y a des beaux parallèles à faire, parce que là, on vient de parler, on a vu Dieu le Père, Dieu le Créateur qui est mentionné dans le verset 1, on a l'Esprit de Dieu qui est mentionné dans le verset 2, puis on voit qu'il y a son apport dans la création. Puis là, on a la parole de Dieu qui est mentionnée la première fois dans le verset 3. Puis on le sait avec Jean 1:1, qui est un super beau parallèle encore, que la parole de Dieu était, au commencement, la parole était Dieu, était avec Dieu, au commencement, la parole était avec Dieu. Il me manque un exprès. La parole était Dieu. Puis là, ça continue, puis la parole, il compare la parole à la lumière dans Jean 1:14, je crois, où la parole était faite chair dans Jean 1:14, mais il parle, la parole est comparée à la lumière. Puis Jésus lui-même s'est identifié comme étant la lumière du monde. Un super parallèle, on voit dans l'Apocalypse, dans la création de nouveaux cieux, nouvelle terre, puis on voit que le soleil ne sera pas nécessaire, il n'y aura pas de soleil dans nouveaux cieux, nouvelle terre, puisque l'agneau, la gloire de l'agneau va resplendir, va servir de lumière pour toutes les nations. C'est qu'il y a des beaux parallèles ici à faire sur. Ça ne dit pas que Jésus était là au moment de la création. Dans ce texte-là, on le sait, dans d'autres textes, Jésus était là au moment de la création, la parole de Dieu. C'est la lumière est créée. Et ça, c'est comme la dernière forme d'énergie qui est apportée à l'univers pour chasser les ténèbres puis mettre une différence entre les ténèbres et la lumière. Et on sait que la lumière, c'est une forme d'énergie. D'ailleurs, je vous ai mentionné que c'est pas si simple que ça, puis je vais revenir là-dessus avant de poursuivre. Parce qu'un des questionnements qui vient tout de suite, c'est ben là, ça n'a pas de sens, la lumière est créée avant le soleil. C'est la première question. Si moindrement quelqu'un lit Genèse 1 là, dans votre entourage, là, il peut piger cette affaire-là assez vite. Puis ça fait tout de suite une contradiction, là, ça n'a comme pas de sens, c'est évident que c'est un mythe de ton histoire. T'sais. Fait que je vous ramène dans les Écritures, dans le sens que cette idée-là, on la voit ailleurs dans les Écritures. C'est, une contradiction-là, ça le serait aussi ailleurs dans les Écritures, parce que je viens de parler d'Apocalypse. Okay? Dans Apocalypse, il semble que dans le nouveau ciel, nouvelle terre, le soleil n'est pas primordial à la présence de lumière. Puis là, ça suggère que l'agneau apporte cette lumière-là. Donc, il faut tout de suite un peu être désarmé. Ce n'est pas la fin du monde que le soleil ne soit pas là pour avoir de la lumière. En tout cas, c'est clair dans les nouveaux cieux, nouvelle terre. L'autre chose que je vous ai amené, c'est qu'on ne comprend pas la lumière aussi bien qu'on semble dire. On constate que la lumière, c'est deux choses en même temps lorsqu'on fait des expériences. Les scientifiques, lorsqu'ils font des expériences avec la lumière, on constate que la lumière, c'est des ondes, c'est des vibrations. Ça, c'est facile à montrer. Ça va bien dans le sens du texte qu'on a vu jusqu'à maintenant. Puis on voit aussi une deuxième chose, c'est que la lumière, ça serait de la matière. Vous avez déjà entendu parler de ça peut-être, là. C'est que si ça n'a pas changé tout ça dans les 12 dernières années, quand j'étudiais, c'était ça. La nature double de la lumière, le dual nature of light, c'était que la lumière, c'est des photons, c'est de la matière qu'on est capable de capter sur des écrans quelconques. Puis en même temps, c'est pas captable dans le sens que c'est des ondes, tu sais, c'est que ça voyage au travers. C'est deux choses en même temps, mais là, tu te poses la question, c'est quoi la lumière? Ça peut-tu vraiment être deux affaires? Ça peut-tu être de la matière qui voyage puis de l'énergie? Ça a l'air un peu spécial, tu sais. C'est que avant de dire que ça fait pas de sens, il faut reconnaître que non, pas du tout. On sait même pas trop comment comprendre la lumière de nos jours. Est-ce que toute la lumière qu'on a actuellement vient du soleil? Si on ôtait le soleil, tu sais, à part ça, là, si on ôtait le soleil, est-ce qu'il nous resterait ou non de la lumière? Vous comprenez? Tout ça n'est pas clair comme de l'eau de roche. Puis une chose est certaine, c'est que dans le futur, ça ne sera pas nécessaire. Pour moi, ce n'est pas un problème là. C'est sinon un fait qui ne contredit pas ce qu'on connaît. Je sais que c'est l'autre chose que ça suggère, parce que dans le verset, on arrive au verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu n'a pas juste créé la lumière, il l'a séparée d'avec les ténèbres. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et là, ici, ça, c'est une autre traduction de jour. Ici, c'est le même mot pour jour aussi dans le reste du texte. Il y a eu un jour. Ça fut le premier jour. C'est que des fois, le mot jour peut vouloir aussi dire littéralement la période claire d'une journée de 24 heures. Okay? Ici, c'est ça, dans ce verset-là, c'est clairement ce qu'il veut dire. Donc, il a appelé la période de lumière jour puis la période de ténèbres nuit. Puis le début de ce cycle-là, jour-nuit, qui va commencer à prendre effet. Là, j'avais un commentaire, Mme Latour. Hélène, donc que c'était-tu nécessairement ça? Peut-être pas. Dieu a pu faire le cycle jour-nuit différemment pendant 3-4 jours. Moi, j'irais avec une constatation plus naturelle. Si je vois aujourd'hui que le cycle jour et nuit, c'est à cause que la Terre tourne sur elle-même, puis que tu as le soleil d'un bord, c'est qu'à un moment donné, une partie de la planète qui est dans le noir, puis à un autre moment donné, la partie est dans le jour, dans la lumière. Pour moi, ça fait naturellement, ça ferait du sens que Dieu met juste en branle les forces et les énergies dans l'univers, dont ça, la rotation de la planète par rapport à une source d'énergie, par rapport à une source de lumière. Maintenant, c'est quoi la source de la lumière? C'est pas spécifié dans le texte, allons pas plus loin que le texte. Mais si c'est le cas, s'il y a vraiment une rotation déjà, c'est que tu as la lumière qui arrive d'une source à quelque part, d'un côté, puis tu as la Terre qui tourne sur elle-même, puis on aurait déjà le cycle jour-nuit qui a été mis en branle de la part de Dieu. Puis éventuellement, Dieu, c'est intéressant, lorsqu'on va arriver avec le soleil, Dieu l'a créé pour présider sur le jour. C'est intéressant, là. Il n'est pas dit qu'il a créé le soleil pour donner de la lumière au jour. Il va présider sur la partie jour de la journée, sur la partie éclairée de la journée. C'est comme le soleil vient présider là. C'est intéressant, on va y arriver plus tard. C'est que je crois qu'à ce moment-ci, on a déjà la rotation de la Terre qui est mise en branle. On finirait le jour 1, là, puis toute la structure de l'univers est en place. Okay? Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, là, parce qu'on l'oublie vite, là, il y a juste la Terre. OK? Imaginez-vous, il y a juste la Terre. La Terre est le centre de l'univers pour vrai, là, à ce moment-là. Puis d'ailleurs, ça va être ça dans tout le texte. OK? Ce qu'on oublie vite, là, les astres ne sont pas créés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune planète, il n'y a rien de constellation créée. Il y a juste une sphère à quelque part aqueuse avec de l'eau. That's it. D'ailleurs, je pense que c'est le meilleur argument contre la vie extraterrestre. C'est pas un argument noir-blanc dans le sens, c'est pas écrit, il n'y a pas d'extraterrestre dans la Bible, mot pour mot, mais je pense que c'est le meilleur argument parce que lorsqu'on va lire toute Genèse 1, tout est centré sur l'être humain. En bout de ligne, c'est ça. À ce point-ci, il y a juste la planète. Éventuellement, tout ce qui va se faire créer sur cette planète-là. Puis là, je me devance, mais même toutes les constellations extraordinaires, puis lointaines, puis immenses, puis qu'on est in awe, là, on considère ça avec des télescopes, on capote, puis là, les gens, on se sent petits, puis les années-lumière et tout. Tout ça là, qui est impressionnant, Dieu l'a pas créé pour qu'on se prosterne devant comme les peuples l'ont fait naturellement, mais il a tout créé ça pour l'être humain. Bon, mais qu'on y arrive, là, tout ça, c'est pour la Terre et pour l'être humain, puis ça a été créé pour qu'il s'oriente dans le temps, puis dans l'espace. Ça n'a pas été créé là, pour qu'il capote puis se mette à genoux. Là. C'est pour lui, pour qu'il l'utilise à ses propres fins. C'est que le texte de Genèse 1 est super centré sur... Quand je dis centré, là, je ne dis pas le côté négatif. Ultimement, c'est centré sur Dieu, parce que Dieu a créé l'être humain pour qu'il adore Dieu, pour qu'il vive en relation avec lui. Mais dans la création, Dieu a tout créé centré sur l'être humain pour qu'il jouisse de la création qu'il est en train de créer. Là. Puis tout ce qu'il crée, Dieu, c'est bon. Puis tout ce qu'il crée, c'est pour qu'éventuellement l'homme puisse en profiter, l'homme et la femme, qu'il puisse le gérer comme du monde. C'est que faut pas oublier ça à ce point-ci. La Terre est le centre de l'univers, puis elle va le rester dans tout le texte, même si d'autres choses vont être créées. Ils vont être créés en périphérie. Ils vont servir pour la Terre tout le temps. Puis c'est là que tu te dis, OK, dans ce sens-là, l'idée d'une vie extraterrestre fait pas vraiment de sens avec l'idée que tout le texte est centré sur la Terre. Tu sais, ça serait bien bizarre d'un coup qu'on découvre sur une planète là, qu'il y a de la vie, quand tout le texte de Genèse 1, la planète qu'il créait là, c'était très secondaire, écrit pour amener de la lumière à la Terre. Là. C'est comme... Ça serait comme assez étrange. Maintenant que Dieu a créé un univers parallèle, on n'embarquera pas là-dedans. Là. Mais dans cela, la Terre est pas mal centrale, OK? C'est que, là, je suis allé au-devant de moi-même, mais bon, je voulais le mentionner quand même. Là, on parlait de la rotation de la planète. Et il finit le verset 5. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Et là, je vous ai mentionné brièvement que l'expression ici, c'est vraiment... Dieu opère plein de choses, crée plein de choses dans la journée. Après, ça dit, il y a eu un soir, le matin, premier jour terminé. C'est ça l'expression dans le fond, c'est fait des trucs, soir, matin, premier jour. C'est que c'est vraiment Dieu travaille durant le jour, dans Genèse 1. La nuit, il n'y a rien qui se passe. Il y a juste la succession de la nuit qui se passe. La nuit se passe, puis le matin arrive, la première journée est finie, on passe au deuxième. C'est que c'est ça l'expression ici, il y a eu un soir, il y a eu un matin, dans l'hébreu. Il faudrait vraiment traduire, soir, matin, on passait pour finir la première journée. Oui. Bonne question. Aucune idée où est-ce que ça se passait. Adam et Ève, quand le jardin d'Éden va avoir été créé, il va être où sa planète? Il va être à quelque part sa planète, puis c'est sûr, par rapport à eux, là, c'est que... Bonne question. Où est-ce que c'était? Par rapport à ce que Dieu était. Bonne question. En plus, je pense que j'avais jamais pensé de cette façon-là. On m'a travaillé là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est juste que je comprends l'idée là, du jour. OK, donc. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'à ce point-ci, je pense qu'on va parler de la question de la théorie du jour-période. Puis après ça, on va aborder le deuxième jour. C'est que s'il n'y a pas de questions, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi est-ce qu'en lisant le texte, on pourrait avoir l'idée que le mot jour veuille dire autre chose que 24 heures? Quand il veut dire d'autres choses en passant, c'est clair, on a déjà vu qu'il peut vouloir dire la période claire d'une journée. OK, on l'a vu, là, c'est clair, puis c'est le même mot hébreu « yom ». Il a appelé la partie lumière « jour » puis la partie ténèbre « nuit ». Deux raisons. La même chose que pour le « gap theory », pour la théorie du « gap ». Si cette idée-là est arrivée, elle n'est pas arrivée en lisant le texte tout seul, puis dans le texte, ça suggérait ça. Okay? C'est arrivé encore, c'est une motivation externe. C'est encore une motivation externe d'essayer... Puis quand je dis ça, là, je ne suis pas négatif, je dis que c'est ça qui est la cause. C'est à un moment donné, il y avait encore l'idée de la Terre vieille, l'âge de la Terre qui est avancé. Puis c'est une autre façon d'essayer de réconcilier les Écritures, continuer à croire aux Écritures, mais quand même se rallier avec les positions contemporaines que tout le monde semble accepter puis qui semblent vraiment couler dans le béton au niveau de l'âge de la Terre. C'est qu'une autre façon, à part de faire le gap theory, c'est de dire que finalement, les périodes, les journées mentionnées, c'est des périodes de temps indéterminées. Tu peux pas juste dire ça, parce qu'en bout de ligne, tu essaies d'accommoder une terre âgée, mais là, je veux dire, dans ces journées-là, dans le texte, il se passe des choses. C'est que c'est pas juste que Dieu a créé, mettons, des trucs pendant 5 minutes, puis après, il y a 2 millions d'années qui sont passées, puis la journée 1 est finie. Le but, c'est aussi d'accommoder qu'il y a des choses qui se passent durant ces périodes de temps-là. C'est qu'éventuellement, les gens qui croient ça, sont souvent, pas tout le temps, évolutionnistes théistes. Ça veut dire qu'ils vont croire que Dieu est le créateur. Dieu est celui qui a initié, entre autres, l'évolution. Dieu aurait créé, mais la Terre, mais elle est très, très vieille. Puis tout le texte ici a été réinterprété d'une façon allégorique, évidemment. Là, c'est pas à prendre au mot, parce que Dieu aurait juste donné un petit coup de pied pour que l'évolution ait lieu tranquillement. Puis même, ce qui est un peu dérangeant mais pour ceux qui croient ça, c'est que l'ordre des choses ici dans la création ne correspond même pas à l'ordre de l'évolution. Il y a des trucs qui ne sont même pas dans le bon ordre des aires géologiques qui ont été définies par les évolutionnistes qui disent que telle aire, tel animal est apparu, puis après, etc., etc. C'est pas cet ordre-là d'un jour ici non plus. C'est qu'il faut pratiquement inverser des journées puis faire une réinterprétation assez majeure du texte pour faire fitter ça avec l'évolution. Ultimement, tu vas être conséquent avec toi pour donner du temps, parce que donner du temps à une journée, c'est pas juste pour donner du temps. Tu donnes... Le géologue, il veut du temps. Il veut du temps pour que l'évolution ait lieu. Parce que ça prend du temps pour que l'évolution ait lieu, si c'est vrai. C'est que l'idée de donner du temps dans le texte ici, c'est pas juste pour donner du temps à un moment donné. C'est pour ça que les gens éventuellement vont dire, bon, probablement que l'évolution a eu lieu, on comprend juste mal. Mais Dieu existe. Dieu est là. Dieu a fait les kickstarts. Dieu était là où ce qu'il fallait. Puis il a contrôlé ça de loin. Là, parce que je veux pas faire un cours là-dessus au complet, mais il y a beaucoup, beaucoup de problèmes théologiques ou de questionnements théologiques qui suivent de ça, là, ce qu'on comprend, mais qui arrivent au jour 6 puis qui créent l'homme et la femme, ils ont-tu évolué eux autres, t'sais? Parce que là, ça devient assez spécial, là, comprenez, là, comme le salut, toute la patente, là, puis l'âme, la ressemblance à l'image de Dieu. C'est que là, ils vont faire des exceptions pour ce journée-là ou non. Moi-même, je sais pas jusqu'à quel point qu'on va dans ce terrain-là, mais on s'en va dans un terrain certainement glissant, à mon avis, si on veut après ça aller dans Romains puis réinterpréter à... Pas juste ça, aller dans Romains puis aller voir Jésus quand il parle du mariage, puis dans Romains quand il parle du péché qui est entré dans le monde puis que la mort est entrée par Adam. On tombe avec des problèmes. Ça, c'est une chose. Donc là, je suis en train de vous dire pourquoi cette idée-là est arrivée. À la base, historiquement, c'est très clair, c'est à cause qu'on voulait harmoniser avec les pensées contemporaines. Mais évidemment, pour qu'on puisse le faire, il faut quand même que le mot « yom », le mot hébreu pour « jour » dans le texte, il faut qu'il puisse le permettre. On s'entend, là, si le mot ne permet pas de dire autre chose que 24 heures, ben tu vas scraper ta théorie et c'est fini. Mais non, oui, comme de fait, le mot peut pouvoir dire, dans certains contextes clairs, puis même dans l'Ancien Testament, on le retrouve, et même dans la Genèse, il peut pouvoir dire une période de temps indéterminée, OK? Mais toujours indéterminée. C'est ça qui est quand même, faut pas oublier, c'est que jamais que le mot a été traduit pour une période de temps avec un début et une fin. C'est une période de temps avec un début et une fin. Jamais le mot yom est traduit pour ça. Il y a d'autres mots en hébreu, dont olam, qui disent ça. Mais des fois, ça peut arriver qu'ils veulent dire, mettons, à l'époque des juges. Mettons, vous lisez le livre des juges dans l'Ancien Testament, puis ça dit à l'époque des juges. À l'époque de, ça pourrait vouloir dire au jour des juges. Même en français, on le traduit des fois de même. Au jour de Noé, en voulant dire durant le temps de Noé, qui est une période indéterminée, là, c'est pas du 1er avril au 5 septembre, là. C'est une période indéterminée. Le mot yom, ça arrive quelquefois qu'il soit traduit comme ça. C'est tout le temps clair dans le contexte qui parle d'une période de temps indéterminée. Entre autres, exemple, je viens de vous dire, c'est dans le livre des juges, où est-ce qu'il dit au temps des juges, le mot yom est là. Yom des juges, au temps des juges. C'est clair lorsque tu dis qu'il parle de l'époque des juges, puis il n'y avait pas de date de début et de fin, OK? Donc ça, c'est possible, c'est sûr, cette petite fenêtre-là étant ouverte, c'est là que la théorie a essayé de pousser en considérant ça. Maintenant, je l'ai dit plusieurs fois, le contexte est toujours clair lorsque c'est le cas. Puis jamais ça a été traduit avec une période de temps déterminée. Maintenant, je vous dis, qu'est-ce que le... Oui, allez-y, oui, vas-y, Denis. Oui. Non, mais c'est pas nécessairement, je vais répéter ta question, tu dis, Denis, que c'est nécessairement déterminé au jour de Noé. C'est pas dans ce sens-là quand je dis déterminé, parce qu'on sait pas, ça veut pas dire que c'était du jour zéro de Noé jusqu'à sa mort. C'est à l'époque où ce que Noé vivait, dans une époque de sa vie où il vivait, il se passait tel truc. L'idée, c'est que le mot a jamais un début, une date, vraiment un début puis une fin. Parce qu'ici, là, il y a vraiment l'idée qu'il y a un matin puis un soir. C'est vraiment des moments précis. Puis là, le mot « yom » est utilisé. Mais jamais qu'il est utilisé sur une période de temps qui a un début puis une fin. Mais une période de temps, ça peut être une journée et demie, ça peut être une semaine, tu comprends? C'est que, quand je dis indéterminé, c'est qu'on n'a pas de date de début puis de fin. Puis même au jour de Noé, c'est pas nécessairement au jour... C'est dans une période de sa vie à lui, c'est même pas spécifié, là. Tu sais, je veux dire, quand il venait de naître, on parle pas nécessairement du moment qu'il soit né jusqu'au moment où il est mort. Je sais pas si tu comprends, il y a quand même une nuance ici. C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de mention de limite de temps, de début et de fin à cette période-là, pour le mot. OK? Mais c'est important. C'est ça. C'est important de le mentionner parce qu'il faut rester dans la Bible pour voir, il faut rester dans l'Ancien Testament pour voir l'utilisation de ce mot-là, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire ici. OK. Donc, ce que vous devez savoir, par exemple, 65 fois dans l'Ancien Testament, le mot « yom » est justement traduit par « temps » ou « époque » indéterminée. 65 fois, là, je vous le dis, ça c'est les fois dans l'Ancien Testament. Genèse 2.4, c'est une de ces fois-là, puis je vais vous la mentionner tout de suite. Genèse 2.4, dans un des textes, on va voir bientôt. Genèse 2, voici les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés. Des fois, c'est pas clair quand on a la traduction, mais quand ils furent créés, le « quand » ici, là, le « quand » c'est « yom », à l'époque où ils furent créés. Donc, la période, durant le temps, voici ce que je viens de vous dire, c'est à l'époque où ce que les cieux ont été créés. Le mot « yom » est utilisé là, juste pour vous donner un exemple concret. Là. Maintenant, des expressions comme « au jour du malheur » aussi, c'en est d'autres. Là. Quand ça dit dans l'Ancien Testament « au jour du malheur », le « yom » est là. Tu sais, le jour du malheur, vous voyez, c'est indéterminé, le jour du malheur. Je veux dire, ça n'a pas commencé le 1 septembre. Tu sais, c'est une idée, une période de temps. Au jour du malheur, quand le malheur va t'arriver dans ta vie, moi, c'est ce jour-là, c'est cette période-là, « yom » peut être utilisé. Non, c'est ça, c'est des périodes de temps. Maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir, okay, là, je vous donne juste des statistiques pour renforcer un point à mon évidence qu'il n'y aurait pas besoin de tout ce que je fais là. Je le fais parce qu'il y a une théorie, mais autrement, on va voir dans le texte est assez, à mon avis, clair là-dessus. En effet, à l'opposé du 65 fois où Yom est traduit par temps, 1200 fois dans l'Ancien Testament, il est traduit par sens, dans son sens littéral de 24 heures, plus 700 fois dans sa forme plurielle yamim. Ça veut dire à peu près 1900 fois versus 65. Dans 95% des cas, le sens littéral est toujours clairement indiqué. Tu lis le texte, tu peux pas t'en sortir. C'est le littéral qui est indiqué par le contexte, par les expressions. Et si le sens de temps, le sens métaphorique, c'est-à-dire le sens d'une période de temps indéterminée est requis, le contexte va le demander clairement. Il y a, dans toutes les occasions, je vous le dis, il n'y a pas de texte gris. Tu sais que c'est vraiment pas clair. Ça donne que c'est toujours clair. Puis comme je l'ai mentionné, ce sens général de période implique toujours une durée indéfinie sans limite définie. Ça, c'est important aussi. C'est jamais l'opposé. Et on trouve nulle part dans l'Ancien Testament où « yom » ne peut pas signifier « jour solaire littéral ». Jour solaire, là, parce qu'on se fie au soleil pour le jour. Il n'y a jamais nulle part où ça ne peut pas signifier ça, puis ça devrait absolument être traduit « période de temps ». Okay? Chaque fois que l'idée d'une longue durée de temps va être communiquée dans l'Ancien Testament, le mot « olam » va être utilisé au lieu. Ce mot « olam-là » veut dire « âge » ou veut dire « temps long ». C'est que si on avait voulu parler d'une ère géologique ou d'un temps long dans le Genèse 1, le mot « olam » aurait été beaucoup plus à propos parce que ce mot-là veut dire ça. Il veut dire un âge, une époque, une ère. Ça aurait été un meilleur mot à utiliser. Okay? Parce qu'on le revoit dans l'Ancien Testament. Donc, ceci étant dit, je tombe dans j'ai dit les statistiques. L'autre chose, maintenant, on revient à notre texte. Toutefois, l'écrivain de Genèse 1, que ce soit Moïse ou Adam, et je pense que Moïse lorsqu'il aurait édité ce texte-là ou il l'aurait compilé, Moïse, il ne faut pas oublier de son époque à lui, étant environné de peuples qui ne suivaient pas l'Éternel et qui avaient toutes sortes de mythes et de fables aussi. Hein. Déjà, à l'époque de Moïse, c'était même le cas avant l'époque à l'époque de Noé. Là, je sais, l'être humain a toujours essayé de remplacer le vrai Créateur par d'autres, puis la vérité par d'autres histoires. Okay? Ça, c'est la nature humaine, la nature pécheresse. Mais du temps de Moïse, je veux dire, les peuples environnants faisaient n'importe quoi. Vous avez vu les textes, je veux dire, il y avait toutes sortes de trucs avec des dieux qui requéraient des sacrifices humains, les enfants, là, c'était n'importe quoi, là, vénéraient les astres, la magie, etc., etc. Puis on a des textes anciens qui montrent que des peuples croyaient justement à des trucs là, qui ressemblent un peu à l'évolution. Là, tu sais, l'idée là, que la Terre est vieille, il y avait plusieurs dieux qui se bataillaient, ou il y avait des longues périodes de temps avant que les choses aboutissent, puis il y avait des potions, il appelle ça la première soupe primitive ou ce qu'il y a des trucs, ça serait passé. C'est des idées qui étaient déjà dans les peuples anciens. C'est que Moïse, à mon avis, c'est intéressant lorsqu'il écrit, je pense que par l'action de l'Esprit de Dieu, c'est assuré que le peuple d'Israël comprenne que son histoire à lui, que la vraie histoire, elle est bien différente de ce que les peuples environnants pouvaient dire. Puis je trouve que, parce que en lisant le texte, il me semble qu'on en met des points pour s'assurer que c'est littéralement un jour de 24 heures. C'est même un peu difficile de s'en sortir. Tu sais, l'expression « il y a un soir et un matin », on aurait pu s'en passer, mais il en met là pour que ça soit clair. Tu sais. Il met là, les adjectifs numéros, le premier, le deuxième, le troisième. Il parle du cycle jour et nuit. Il utilise le mot « yom », qui est le bon mot pour ça. Tu sais. C'est que il me semble qu'il en met en masse pour être sûr qu'on ne se trompe pas, puis ça ferait du sens si c'était donné à des gens qui étaient entourés par des idées païennes. Donc, et quand je dis ça, on se pense vraiment aux adjectifs numéros que je viens de dire. Puis à chaque fois que premier, deuxième, troisième est utilisé, c'est toujours un sens littéral dans l'Ancien Testament. À chaque fois qu'on parle de matin et soir dans l'Ancien Testament avec le mot « yom », c'est toujours un sens littéral. Il y a plus de 100 fois que c'est le cas. Et donc, à mon avis, il ne peut pas être plus clair que ça. Puis je reviens avec le verset que je vous ai mentionné il y a plusieurs cours dans Exode 20. Vous vous rappelez Exode 20, les 10 commandements? Vous vous rappelez le commandement lorsqu'il donne le commandement du sabbat, du jour du repos? Il dit à l'homme, il dit aux gens, il dit, écoutez, vous allez travailler 6 jours, OK? 6 yom, des jours littéraux, c'est clair dans le contexte, il ne parle pas, vous allez travailler 6000 ans. Là. Vous allez travailler 6 jours dans votre semaine, puis vous allez vous reposer un jour, OK? Puis l'argument qu'il fait pour le peuple, pour qu'il mette du poids sur cette loi-là, il va chercher un argument dans la création, puis c'est fort, pour que l'argument ait du poids, si Dieu a eu besoin, pas qu'il a eu besoin, si Dieu s'est reposé le 7e jour et que pendant 6 jours, il a fait son activité, mais vous de même, vous ferez comme votre Dieu, OK? Si c'est pas ça que ça veut dire en Genèse 1, si c'est n'importe quelle période indéterminée avec une évolution là-dedans, le verset comme tel perd toute de sa puissance dans la comparaison, vous comprenez? L'idée, c'est que tu es là, tu es assis, tu reçois le commandement de la part de Moïse, bien, à qui Dieu a travaillé 6 jours, selon le texte que j'ai, puis s'est reposé le 7e jour, puis moi, je suis ordonné de faire la même chose, vous comprenez? Le mot « yom » dans verset 8 à 11 de Exode 20 est utilisé pour Dieu et utilisé pour l'être humain. Pour moi, c'est un verset qui est hyper clair à ce niveau-là. Juste ce verset-là comme tel règle la question, à mon avis. Mais bon, comme je vous dis, j'en parle parce qu'il y a d'autres idées qui circulent, puis je vous exprime ce que je pense que le texte dit clairement. Maintenant, à mon avis, rendu là, la seule façon appropriée d'interpréter le chapitre, c'est justement de ne pas l'interpréter, OK? De le lire, puis ça dit jour, c'est jour. De l'interpréter, ça serait essayer de le faire dire d'autre chose qu'un jour. C'est la lecture naturelle du texte, les indices de la part de l'auteur sont clairs. Et comme je vous dis, le but du cours, à mesure qu'on va avancer, un des buts du cours, c'est en prenant toutes les choses comme telles, sans les interpréter, mais en les prenant, ça nous donne une vision du monde, je vous dirais, qui fait encore plus de sens que pour quelqu'un qui n'a pas Dieu ou qui n'a pas un Dieu qui est interventionniste, qui a intervenu dans le passé. Vous allez avoir une vision du monde qui fait du sens et qui est rassurante, OK? Qui est très différente du contemporain, là, on s'entend, là. Si moi, je crois que la Terre a 7-8 000 ans, là, je veux dire, je suis à des années-lumière de ce que le monde croit. Puis, si je crois qu'Adam et Ève, c'est une vraie histoire, là, je veux dire, on comprend-tu que notre paradigme, notre vision du monde est totalement différente du monde? Mais on n'est pas appelé non plus à avoir une vision qui va toujours s'accorder avec celle des gens. On pourrait revenir et parler de 2 Pierre 3. Mais bon, on va laisser faire ça. Deuxième jour, j'aimerais ça commencer en deuxième jour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de couvrir? That's it, il reste encore 20 minutes. 20 minutes, yeah. Les dernières fois, il me semble que le temps passait. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Je suis conscient s'il y en a que ça bug, s'il y en a que c'est pas clair, s'il y en a qui sont pas convaincus. Bien, mon but, c'est pas de convaincre non plus, là, mais... Venez me voir après le cours pour ces trucs-là. Je le dis parce que je vous dis, c'est pas une joke, au 20e siècle, la gap theory était enseignée at large aux États-Unis. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, moi le premier, je serais embarqué là-dedans, c'est tout ce qu'on m'avait dit. C'est que, venez me voir après s'il y a de quoi. Donc, la Terre n'est plus informe et vide la fin du premier jour, mais elle est encore, elle est plus informe, excusez-moi, mais elle est encore vide. Donc, on est rendu à l'étape de la rendre habitable. Puis, une des choses qui fait en sorte que la Terre, notre Terre actuelle, est tellement propice à la vie, bien, c'est la présence de notre atmosphère, de notre air qu'on est capable de respirer, puis c'est la présence de notre hydrosphère, de toute l'eau qui est primordial à la vie, l'air et l'eau primordial à la vie. Puis dès la deuxième journée, Dieu va mettre ces choses-là en place. Des choses qu'on n'a pas retrouvées nulle part ailleurs dans les explorations spatiales dans notre système solaire. On n'a pas encore trouvé cette présence-là d'atmosphère puis d'hydrosphère avec de l'eau ailleurs. Convaincante, là, on n'a pas encore trouvé. Il y a des théories, il y a des suggestions, mais on n'a pas encore trouvé ça. Puis en passant, même, je vous dis ça en passant, là, même si on trouverait de l'eau ailleurs, tu sais, sur Mars, là, quand il amène le sonde, c'est pas un drame en passant. Il n'y a rien de contraire à la Bible. Moi, personnellement, je ne serais pas surpris. L'eau étant la matière première qui a été utilisée pour notre planète, pourquoi pas que Dieu aurait utilisé l'eau pour faire créer toutes les autres planètes, étoiles, etc. Je veux dire, c'est pas un drame, ça. T'sais. C'est pas l'eau est super vitale à la vie, mais c'est pas de discerner une molécule d'eau qui va faire toute la différence. Ah oui, il y a de la vie. Pour un évolutionniste, c'est important parce que la présence d'eau est nécessaire éventuellement à ce qu'il y ait la vie parce que la vie s'est formée dans l'eau au début. Là. C'est là que les bactéries puis tout ça s'est formé. Là, mais bon, ceci étant dit, c'est pas un drame. L'eau semble être à la matière première que Dieu utilise. Lisons le deuxième jour. Verset 6, 7 et 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un deuxième jour. Y a-t-il quelqu'un qui a une autre version? Moi, dans le fond, je pense que j'ai la colombe. Mais est-ce qu'il y a une version qui est la façon que c'était phrasé est différente, puis la relire tout haut? Est-ce quelqu'un qui avait une version différente de ce que j'ai lu? Ça se ressemble? Est-ce quelqu'un qui a une Bible Témoin de Jéhovah? Ouais, <non. rire> pour lire. Non, mais je veux dire, dans ce verset-là, je dois dire la même affaire. C'est dans d'autres textes. OK. Donc, ça, c'est le texte qui nous intéresse. Juste là, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ce que ça dit dans ces versets-là, ou si vous avez lu bien vite, là, mais il y a des affaires très, très, très spéciales et à prendre en considération. Je vais vous lire un texte, pas un texte parallèle nécessairement, mais un texte qui reflète toute l'importance de l'air puis de l'eau puis comment Dieu a façonné les choses en conséquence dans Isaïe 40, versets 12 et 22. Isaïe 40, 12 et 22. Isaïe 40, 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la paume? Dans le fond, c'est un texte parallèle un petit peu sur le jour 2 et le jour 3. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la paume? Celle de toute la poussière de la terre sur un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance. Là, on tombe au verset 22 après. C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. À mon avis, ici, encore sous forme poétique, dans Isaïe 40, on a un texte parallèle à Genèse 1, à la deuxième jour. C'est comme si de façon poétique, tu as envie de décrire ce que Dieu a fait dans le deuxième jour de la création. Souvent, des auteurs qui avaient accès à ces textes-là pouvaient les reprendre avec leur façon de l'écrire. Donc, on a la première journée ici, on a la terre qui est complètement entourée d'eau, OK? Parce qu'on sait fort bien que c'est dans le jour 3 que le sec va apparaître. Il n'y a pas encore de sec, là. Tu peux peut-être aller nager, là, je ne sais pas, mais tu ne peux pas aller marcher là-dessus, OK? Ce que Dieu est en train de faire au verset 2, là, puis là, je le prends mot pour mot, là, si vous relisez le texte, vous lirez, là, je vais faire un petit dessin, là, c'est exactement ça qu'il fait ici, là. Il sépare les eaux d'avec les eaux. Il y aura les eaux au-dessus et les eaux en dessous, puis entre les deux, il va y avoir un espace qu'il va appeler étendue, et cette étendue-là, il va l'appeler ciel dans le texte. D'ailleurs, c'est encore le mot qui est le même mot pour cieux. C'est le mot que je vous disais, heavens, qui veut dire espace, ça veut dire un espace défini. Ça va être encore le même mot, il va utiliser le même mot pour l'espace entre les deux eaux. OK? Fait que je ne sais pas si c'est nouveau pour du monde, là, mais bon, on va essayer de dessiner ça. OK? C'est comme si vous vous ramassez maintenant avec une sphère. Encore, avec de l'eau à la surface. Bon, on va faire à la surface au complet. N'oubliez pas, là, ici, là, il y a de l'eau. Okay? Ma fille serait fière de moi. Il y a de l'eau à surface au complet. Là, Dieu prend cette eau-là, puis il la sépare en deux, puis il met un espace entre les deux. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a qui existe qui pourrait ressembler à ça? Imaginez-vous, vous avez un ballon avec un autre ballon dedans. C'est pas compliqué. Un ballon avec une balle dans le milieu, là, c'est un peu ça. Parce que là, je fais une coupe en transversale. Mais là, ici, on serait comme ça. Ça ici, ce que je viens de dessiner, ça, là, là cette ligne-là, c'est les os au-dessus, OK? Au-dessus de l'étendue, OK? Parce qu'ici, il dit plus tard, l'espace qui va se créer entre les deux os, ça s'appelle l'étendue, puis il va même y donner un nom à cette étendue-là, le ciel, OK? Puis il va évidemment rester les os, il va encore rester des os au-dessous, qui sont les os directement sur la sphère, OK? Les os au-dessous. C'est ça. Ça, c'est les os au-dessus. Je relis le texte. Je vais vous en parler plus. Non, pas les nuages. C'est une couche. OK, là, je vais tout de suite vous dire. C'est une couche d'eau. Là, je vais vous suggérer étant quoi, là. Mais c'est une couche d'eau qui revêt au complet l'atmosphère. C'est comme une couche d'ozone. Okay? Pensez à la couche d'ozone. Quand vous visualisez la couche d'ozone, vous imaginez une couche au-dessus de notre atmosphère qui fait son vœu. C'est que c'est toute une autre couche qui fait le tour de l'atmosphère au complet. Relisez le texte. Okay? C'est très clairement ça que ça décrit ici. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. Okay? Pour séparer les eaux des eaux. Qu'il y ait une étendue. Là, il ne faut pas oublier que c'est pour ça que j'ai pris le temps d'y aller tranquillement. Au début, là, on a une sphère entourée d'eau. Okay? Donc, il y a une étendue pour séparer les eaux d'avec les eaux. Je vais rester dans le texte. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous et de l'étendue, donc au-dessous de quoi? De l'étendue, d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Il en fut ainsi, et Dieu a appelé l'étendue ciel. Il y a un soir, il y a un matin, ça fait un deuxième jour. Ça, c'est une coupe transversale. N'oubliez pas qu'on a une sphère ici. Exactement. Exactement. C'est comme s'il l'a pris, là. C'est comme s'il avait... Il a amené une partie. Maintenant, physiquement, c'est pas marqué comment ça s'est passé. Peut-être une façon que Dieu l'a fait. En d'ailleurs, quand c'est intéressant ici, là, je lâche mes notes, OK? Je vais y aller dans l'impro. Quand Dieu dit, Dieu fit donc cette étendue ici, il n'a pas utilisé le mot bara, qui veut dire création ex nihilo, création à partir du néant. Il utilise le mot asa, qui veut dire faire, former à partir de quelque chose qui est déjà créé. OK? C'est que Dieu, à ce moment-là, il fait une étendue à partir de quelque chose. L'étendue, dans le fond, tout ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a séparé des eaux avec des eaux, ça a créé un espace par la force des choses, puis cet espace-là, il a donné un nom, il a appelé ça ciel, il l'a fait. Mais vous comprenez qu'il a utilisé la présence de l'eau pour le faire. Il n'a pas créé ex nihilo dans ce cas-là. En tout cas, le verbe qui est utilisé, c'est faire. Maintenant, comment ça s'est passé, si on ne le sait pas, ce que je vais vous dire là, c'est de l'extrapolation basée sur ce qu'on voit au niveau des phénomènes autour. Une des façons que Dieu aurait pu faire ça, je vous donne une idée. C'est que, whatever, il donne un apport de chaleur quelconque, ou peu importe, là, que ce soit d'une façon miraculeuse, une partie de l'eau liquide se serait évaporée puis serait devenue sous forme vapeur. OK? Il aurait été plus légère que l'air, que l'atmosphère, que les gaz dans l'air, puis se serait tenu au-dessus de l'air, mais serait resté là parce que la gravité tient cette couche d'eau-là, comme l'ozone, qui est une couche au-dessus de notre atmosphère, est tenue en place sur la planète parce qu'elle est attirée par la planète. C'est pour ça que dans l'espace, tu vois un rond. Tu vois pas toutes les couches, mais on a la toposphère, la stratosphère, l'ionosphère. Là, en science, tu apprends qu'il y a plein de sphères autour puis qu'il y a des gaz différents dedans à mesure que tu montes en hauteur. Bien, dans ce cas-là, il y a une couche d'eau, et là, logiquement, ce serait probablement de la vapeur parce qu'en bout de ligne, il faut que tu puisses voir les astres parce que lorsque Dieu va créer les astres, il est créé pour qu'on les voit, pour qu'on s'oriente. C'est que s'il envoie une couche de glace, on est un peu mal pris ou tu sais pour voir à travers. D'ailleurs, même les nuages, vous savez, les nuages, c'est opaque. Okay? C'est là, en condensation, c'est opaque, tu ne vois pas au travers. Tandis que la vapeur comme telle, juste la vapeur d'eau, je veux dire, tu peux en avoir, je ne sais pas, là, que tu en aies un kilomètre d'épais de vapeur, tu peux voir au travers. Okay? Puis ça, c'est important parce que dans le texte, là, on peut voir au travers plus tard. Puis, si c'est ça que Dieu a fait, comme je ne veux pas dire que ce n'est pas marqué dans le texte, c'est de la vapeur, OK? Mais ça ferait du sens. Parce qu'il ne faut pas oublier là, que Dieu soutient toutes choses. Donc, les choses fonctionnent parce que Dieu est là. On y croit. Là. Dieu déciderait d'arrêter de soutenir les choses, tout tomberait, OK? Mais en même temps, de même que Dieu soutient les choses, Dieu a mis en activité des lois qu'il a créées, puis des forces, puis qui roulent. Pas par eux-mêmes, parce qu'il les soutient, mais ils roulent quand même. Vous comprenez, ça fonctionne là. Si Dieu décide d'arrêter le soleil à un moment donné, ou de, comme il l'a fait dans l'Ancien Testament, là, il y a un moment donné, il y a une journée là, qui n'a pas été 24 heures, là, je ne sais pas trop, là, ça, je ne me rappelle plus l'histoire exactement. Dieu peut le faire, mais les choses roulent parce que Dieu les a laissés, il leur a donné l'occasion de rouler, puis il les a établis avec une structure. Pourquoi je suis en train de dire ça? Là, j'ai perdu mon fil bien raide, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un qui sait que... Moi, je reviens à vous, ce sera pas long. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pourquoi j'ai parlé de ça, là? Ouais, c'est ça, OK. OK. Whatever, il y avait de quoi je pensais. Mais OK, c'est bon. En tout cas, ça pour dire que... j'avais vraiment une idée, mais je m'en... En tout cas, l'idée, le point, c'est que on n'est pas obligé non plus d'essayer d'avoir des idées farfelues, mais on peut juste expliquer les choses avec ce qu'on observe. Ce qu'on observe vient pas d'autre chose que de l'Éternel qui l'a créé. Là. Puis Dieu nous a donné le cerveau pour le comprendre aussi. Oui. Oui, je vais prendre la question, M. Boniface. Oui. Allez-y, c'est à vous. Évidemment, oui, évidemment. Vous êtes en avance sur moi, oui, tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Le point, là, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas comme ça. Okay? Puis on va y arriver dans Genèse, vous allez voir, c'est très clair encore. Là, si vous avez lu le texte rapidement du déluge, vous irez le relire. La part des eaux que Dieu a utilisée pour inonder la planète au complet est venue de deux sources très claires dans Genèse. Là, je me devance encore là, vous irez voir. Les sources des grands abîmes ont jailli. C'est que l'eau souterraine qui a été utilisée de la part de Dieu, puis les écluses des cieux se sont ouvertes. Okay? Puis c'est très clair, c'est ça qui est écrit dans le texte de Genèse. C'est à ce moment-là que cette couche d'eau-là est disparue. C'est que Dieu aurait fait en sorte que la vapeur d'eau se précipite sous forme de pluie durant 40 jours et 48 du temps de Noé. Et c'est pour ça, parce que là, cet élément-là qu'on voit est hyper important. C'est pour ça que dans 2 Pierre, je crois, ou dans 1 Pierre, Dieu parle de l'ancien monde comme étant le monde avant Noé. Ancien monde, c'est une expression biblique dans le Nouveau Testament. Il parle de l'ancien monde, il fait vraiment, à mon avis, référence à ça. Parce que ça, cette couche d'eau-là, va changer énormément les choses. Il y a une énorme différence entre aujourd'hui et avant. Aujourd'hui, on discerne encore la beauté de Dieu dans la création. Là, je ne suis pas en train de dire que la création n'est pas complexe et ordonnée. Au contraire, là, c'est magnifique, mais c'est loin d'être aussi magnifique que ça l'était avant le déluge. Entre autres, parce que... Et c'est encore loin d'être aussi magnifique que ça l'était avant le péché d'Adam et Ève. Parce qu'avant le péché, bien, il n'y avait pas le péché dans le monde. Puis le péché a scrappé bien des affaires au niveau biologique puis au niveau de la création qui fait en sorte qu'elle n'est pas aussi belle qu'elle l'était. On discerne encore Dieu aujourd'hui, évidemment. Là, mais... Puis cette couche d'eau-là, et là, j'y viens, faisait toute la différence avant d'après le déluge pour la qualité de vie puis la qualité de l'environnement qui était possible pour Adam et Ève, pour les êtres humains et les animaux. Puis là, on va y aller sur le genre de choses que ça pourrait avoir eu comme implication. Donc, pour revenir à ce que je disais tantôt, moi, c'est ça. Tu as peut-être sous cette ligne-là, j'ai été. Admettons que Dieu a permis que l'évaporation de l'eau liquide, puis ça va se placer sous forme de vapeur d'eau, puis qu'elle est plus légère que le reste des composantes atmosphériques. C'est que là, on se ramasse avec une couche en haut qui est attirée par la planète Terre, par gravité, mais qui reste là. C'est que là, tu te ramasses à avoir créé un vide, un espace, mais quand dans le processus, c'est rempli de gaz qui forment notre atmosphère aujourd'hui, puisque aujourd'hui, on sait que notre atmosphère est formée d'azote, de dioxyde de carbone, d'oxygène. Toutes ces molécules-là se seraient libérées et auraient rempli l'atmosphère. Puis éventuellement, tout ça se tient, parce qu'il y a des forces qui sont exercées, puis il y a une question de poids, puis de masse, puis de concentration. Maintenant, le texte nous dit juste qu'il a créé ça. Okay? Il ne nous dit pas c'est quoi ça a fait. Nous, on va conclure bien des affaires que ça a fait. Ce que je m'apprête à vous dire là, c'est de l'observation scientifique, mais que Dieu, on observe des choses, c'est qu'on peut conclure qu'est-ce que sa couche d'eau-là aurait changé par rapport à aujourd'hui, parce qu'on ne l'a pas. On ne sait pas son épaisseur, mais on sait que Dieu l'a fait et c'était bon. C'est qu'on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut avoir changé. Parce qu'il y a des choses qui ont changé d'avant à après, puis des fois, on a de la misère à se l'expliquer. Donc, c'est important de ne pas oublier là, que c'est pas, même la Bible répond à cette question-là, cette couche d'eau-là n'équivaut pas à un nuage de gouttelettes d'eau qui flotterait de nos jours dans l'atmosphère, OK? Parce que si vous allez voir dans le chapitre 2, c'est clair qu'il ne pleuvait pas du temps d'Adam et Ève. Il n'y avait pas de la pluie, même pas avant Noé. OK? Ça dit clairement qu'il n'y avait pas de pluie à cette époque, mais Dieu faisait monter une vapeur d'eau à la surface du sol qui servait assez pour nourrir les plantes. Un autre indice biblique qu'on a comme quoi qu'il n'y aurait pas eu de pluie avant le déluge. Qu'est-ce qui s'est passé après le déluge? L'arc-en-ciel. Dieu, encore là, c'est intéressant, Dieu s'est servi d'un phénomène naturel qui allait avoir lieu dans sa création, que lui-même a tout mis en branle. l'arc-en-ciel. Il s'est servi de l'arc-en-ciel comme un signe d'alliance, comme quoi qu'elle ait pu détruire la terre de cette façon-là avec de l'eau. On ne peut pas avoir d'arc-en-ciel s'il n'y a pas de pluie. Je ne sais pas si vous savez comment ça se forme un arc-en-ciel. On voit un arc-en-ciel, il faut qu'il y ait et du soleil et de la pluie en même temps. Parce que ce qui arrive, c'est que les rayons du soleil ou les rayons de la lumière passent dans des gouttes d'eau qui sont au loin de nous. Puis quand la lumière rentre dans la goutte d'eau, qui est une petite sphère, dans le fond, la lumière, c'est un spectre de couleurs. Okay? C'est un spectre électromagnétique qui part des infrarouges à ultraviolets. C'est toutes les couleurs sont là. Nous, on voit la lumière visible. La lumière qu'on voit, elle est invisible, elle n'a pas de couleur. Okay? Mais si tu lui permets de rentrer dans, mettons, une sphère, ou dans ce cas-là, une goutte d'eau, ça fait un élément de diffraction. C'est-tu la diffraction, le bon terme? C'est toutes les couleurs du spectre électromagnétique vont se splitter dans la goutte d'eau. Ou réfraction, en tout cas, ça finit par action, là. Mais ça rentre, puis ça se diffracte, ou ça se réfracte, puis ça envoie toutes les couleurs du spectre électromagnétique. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'il pleut au loin, il fait beau ici, il y a le soleil, parce qu'il ne faut pas juste que ça soit nuageux, tu n'auras pas d'arc-en-ciel, il faut que tu aies du soleil quelque part que toi, tu es capable de voir. C'est que la lumière passe au travers un paquet de gouttes d'eau, puis ça se sépare tout en même temps dans toutes ces couleurs, puis toutes les couleurs sont réparties selon le spectre électromagnétique. C'est toute la physique, là. C'est que tu as tout le temps les mêmes couleurs d'un. Je ne sais même pas par cœur, là, ma fille, ça aurait plus comme moi, mais tu pars de je sais pas rouge à quelque chose d'autre. Là. Mais ça, il faut qu'il pleuve pour que ça se produise un arc-en-ciel. Okay? C'est pour ça qu'on n'en voit pas tout le temps. Oui, des fois, tu as le même effet. Puis dans les chutes, des fois, tu as du mist, tu as des petites gouttelettes d'eau, de la brune qui revole, puis l'effet de l'eau qui passe au travers de la brune en avant de la chute, ça fait l'arc-en-ciel. Tu prends ta hose, après-midi, vous prendrez votre hose, vous ferez une petite arc-en-ciel, mais il n'y a pas de soleil. Mais... Mais que ça, c'est l'explication physique de comment est-ce que l'arc-en-ciel, on la voit, nous. Okay? Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été visible pour la première fois pour les êtres humains après le déluge, parce que Dieu s'est servi de ce phénomène physique-là qui s'est produit naturellement parce qu'il a plu pour la première fois ou il pleuvait pour les premières fois. Puis il a utilisé ça comme symbole de son alliance avec l'humanité. C'est un autre indice comme quoi qu'il n'y avait pas de pluie. Oui, c'est ça. C'est que là, il y avait un beau signe que les humains ont tous vu pour une nouvelle fois, puis Noé et sa famille, qui étaient les seuls humains à ce moment-là, ont eu, je ne sais pas combien de temps ça a duré, cette connaissance-là, de cette alliance-là. OK, mes amis, okay. Il me reste une minute ou deux, je vais revenir, pour ceux qui quittaient, je vais revenir la semaine prochaine pour ça, mais je vous laisse une couple de pensées, là, juste pour exciter votre esprit cette semaine, puis on va y revenir en détail. Des idées sur quoi que ça aurait pu faire une couche d'eau comme ça, OK, j'en mets une rafale, donnez-moi deux minutes, je fais une rafale de trucs, puis je vous laisse ponder de penser à ça. Avec une couche d'eau de même, ça fait un effet de serre. C'est clair ce que ça va faire. Puis d'ailleurs, ça se produit une nuit nuageuse. Il fait moins fret le matin. L'été, on sait qu'on travaille. Quand une nuit qui a fait soleil la nuit, on a vu les étoiles le lendemain matin, on est gelé. C'est parce que la chaleur qui frappe la Terre, qui est réfléchie à la surface de la Terre, n'est pas réfléchie encore vers la Terre parce qu'il n'y a pas de nuages. Alors, ça que le camp dans l'atmosphère, dans l'atmosphère, whatever, là, dans l'univers. Mais si on a une couverture nuageuse durant la nuit, la chaleur qui rentre en rayon va rebondir comme ça puis va se répartir un peu plus égal. On se ramasse avec des matins plus chauds. Imaginez-vous que vous avez une couche d'eau à la grandeur de la planète. Tous les rayons du soleil, les rayons de lumière qui rentrent sont répartis tout le temps égal d'une façon globale. Ça vous ramasse avec un climat uniforme à grandeur. Ça veut dire plein d'affaires. Il n'y a pas de pôle, il n'y a pas de pôle glaciaire, il n'y a pas de place qui fait trop chaud, place qui fait trop froide, et il fait une température super pour être tout nu partout. Okay? Parce que tout le monde était tout nu partout, c'était ça le but, au début. Avant qu'il y ait le péché, c'est qu'on a une traverse avec une température parfaite. Okay? Puis ça fait bien du sens, parce que quand on gèle à moins 40, des fois tu te dis, ouais, il me semble que la création, Dieu aurait pu forcer un peu. Il n'y avait pas du gelé à moins 40. Je finis, je fais juste des rafales, parce que je ne veux pas embarquer trop là-dedans. Si on a une température uniforme, forme à grandeur de la planète, c'est qu'il n'y a pas de mouvement de masse d'air puis de tempête, parce que pour avoir des masses d'air, des gros vents, des tempêtes, il faut des changements de température. Si tu n'as pas ça, ils ne vendent jamais. À peine si tu as une petite brise le matin pour secouer les cheveux d'Ève, c'est tout. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête, tout est uniforme, il n'y a pas de circulation aérienne globale. Ça veut aussi dire que le cycle hydrologique actuel est absent. Ça veut dire que la formation de nuages n'est même pas possible, parce que pour qu'un nuage se forme, il faut qu'en montant, l'eau rencontre un différentiel de température pour qu'elle condense. Mais s'il fait la même température de la couche d'eau jusqu'à terre, donc de gauche à droite, puis de nord, de haut vers le bas, pas de formation de condensation, pas de nuages, donc pas de pluie, donc pas de neige parce qu'il ne fait pas fret. C'est que les sports d'hiver, c'est. Non, je ne peux pas dire que c'est un péché. C'est sport d'hiver, on aurait pu créer de la neige, mais il n'y avait pas de neige, pas de pluie, pas de vent, pas de fret, pas d'humidité gossante. Après ça, ça veut dire que la végétation, ça devait être de la végétation riche. Il n'y avait pas de zone désertique, il n'y avait pas de place. Parce que c'était une végétation riche un petit peu quand on voit des forêts subtropicales. Là, c'est qu'il n'y a pas de ça. C'est tout le temps une belle végétation là, reluisante. Là, puis... Et après ça, là, je vous donne d'autres idées. Là, je vais tout y revenir parce que je vous pitche super vite. Mais le but, c'est de vous être sûr que vous en revenez la semaine prochaine. Là. Avec ça, imaginez l'ozone qui est une mini-couche comparée à ça. L'ozone, on le sait que ça nous protège contre des rayons nocifs, des rayons cosmiques nocifs. Là, on sait que des rayons nocifs peuvent générer des mutations chez les organismes vivants, vous savez. Puis là, bon, sans considérer les rayons nocifs du soleil, parce que là, on a des problèmes de peau, etc. Imaginez-vous avec ça, vous avez une surprotection sur tout ce qui aurait pu être nocif de la part des rayons qui seraient venus de l'univers. Quand je dis que c'est nocif dans le sens que c'est pas nocif en soi, mais Dieu a préparé les affaires pour qu'on ait besoin de du soleil, mais on ne peut pas brûler non plus. Donc, ça devait certainement faire en sorte que les gens étaient en meilleure santé, puis aussi pouvaient vivre plus longtemps avant que le péché rentre dans le monde. Là. C'est que là, on va y revenir à ça. Puis la dernière affaire que je vous laisse avec, c'est pour ceux qui avaient déjà pensé, imaginez-vous, ça fait quoi si j'ai une couche d'eau, là, même sous forme de vapeur, on s'en fout, au-dessus de l'atmosphère, puis qui est attirée vers la Terre par gravité, ça fait quoi? La pression augmente dans l'atmosphère, vous comprenez? Il y a une pression atmosphérique actuellement, vous ne la sentez pas, vous avez une pression sur vous parce que l'air, c'est quand même des molécules, ils ont une masse, puis ça pèse sur votre tête, c'est 101,3 kPa, on ne le sent pas. Mais à l'époque, il y avait une couche qui avait un poids, elle, en plus, qui était attirée par la Terre, c'est sûr que la pression dans l'étendue était plus haute. Combien, je ne sais pas, de double, était plus haute. Puis ça, on peut déduire plein de choses après. Ce n'est pas marqué dans le texte, mais c'est toutes des observations. Et je vous laisse avec des idées. Où est-ce qu'on utilise l'augmentation de pression pour la guérison? Il y a ceux qui connaissaient un peu dans le sport ou les chambres hyperbares. Tout le traitement à l'hyperbare, là, c'est quelque chose qui s'est développé, je ne sais pas ça fait combien de temps, mais c'est pas négatif, la pression, parce que quand tu augmentes la pression, tu augmentes la concentration des gaz aussi. Puis d'une manière ou d'une autre, ça a l'air que notre corps, il va en profiter d'avoir plus d'apport d'oxygène ou peu importe. Ça veut dire qu'à quelque part, le métabolisme, ça a l'air qu'il réagit bien à ça, parce que même au niveau guérison, les guérisons sont améliorées, puis il y a même des fois des amputations qui sont sauvées quand les gens sont mis dans des situations de pression augmentée dans des chambres. C'est comme si des chambres ont créé un environnement à plus haute pression. Des fois, ton sang va peut-être circuler plus vite, je ne sais pas. Fait en sorte que même qu'il y a des parties de toi que tu aurais pu perdre, tu aurais dû te faire amputer, qui vont se régénérer. Fait que là, je vous lance juste des pistes de réflexion, puis là, on parlera de bien d'autres affaires, du gigantisme, puis des dinosaures, puis des patentes de même. Beaucoup de choses vont être conséquentes, puis vont faire qu'on a un ancien monde ici qui n'est pas comme le nouveau, parce que le péché a fait en sorte que Dieu a envoyé le déluge. Puis en envoyant le déluge, on a perdu les écluses des cieux, Dieu s'en est servi. Je vous laisse avec ça. C'est juste pour attiser votre curiosité.